Alors, voilà, alors on pense aussi qu'il a dû peut-être inspirer ou composer certains psaumes. Si après tout David est aussi le page musicien, il était en mesure de faire des psaumes. Hein. Et dès avant la mort de David, en 975, selon. Enfin, ça dépend des historiens, se pose le problème de la succession. Il n'y a plus de Samuel pour sacrer le roi. Donc, comment en faire? Alors, le roi, le fils aîné de David, alors sachant que David, quand même, a eu plusieurs femmes, hein, sans compter celles qui n'étaient pas ses femmes. Parce qu'on nous parle à un moment de son harem, là, qui, au moment de, quand il quitte Jérusalem, il part avec toutes ses femmes, hein. Mais vous voyez, il est aussi capable de miséricorde, l'espèce de Shimei, là, celui qui l'insulte pendant son repli, qui est un descendant de Saül, enfin, disons, un apparenté de Saül. Et alors, il y a comment dire, des gardes ou des preux de David qui dit, mais ne veux-tu pas que j'aille couper la tête de ce chien crevé Et alors, donc, il lui dit, non, 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 après tout, ce qui m'arrive. Il est arrivé bien pire à Saül, donc on comprend. Et puis, en lui disant, après tout, j'ai pris son trône, alors il a bien des raisons de se plaindre. Donc voilà. Donc il est capable aussi de mouvements de comment dire. Voilà, il peut être magnanime. Alors, en tout cas, donc, on a vu comment Absalom s'est proclamé roi à l'insu de son père. Hein.
Absolument.
Oui. Donc, qui est désavoué par David, qui va introniser un autre de ses fils, Salomon. On voit ça au début du premier livre des rois. Dans l'ancien calcul, c'était troisième livre des rois, du coup. Salomon va d'abord apparaître comme l'archétype du roi parfait, du roi fidèle, hein, dans sa prière d'intronisation, au lieu de demander. Puissance et richesse, il supplie humblement que la sagesse vienne l'habiter. Alors, que fait Salomon? Autant David, ça avait été un règne guerrier, ça sera un règne pacifique. Il va surtout développer l'administration. Il va diviser le royaume en 12 provinces, qui doivent correspondre aux 12 tribus. Chacune devant subvenir aux besoins de l'État pendant un mois. Il fonde des villes, bâtit un port sur la mer Rouge, fait construire une flotte, réutilise des mines qui avaient été abandonnées par les Égyptiens, les fameuses mines de Salomon, qui ont fait couler tant d'encre et aussi produit tant de films. Et surtout, il va faire construire le temple à Jérusalem, cité de la paix. David, ça lui avait été refusé parce qu'il avait fait couler trop de sang, tandis que c'est accordé à Salomon. Et il va installer l'arche à l'intérieur du temple. Et ainsi, le roi va s'effacer devant la royauté. De Yahvé qui n'est toujours pas représenté, il y a son trône, mais rien dessus. Le propitiatoire, donc, est vide, soutenu par ces espèces de kéroubim, là, d'anges un peu étranges. Et lui, alors, il se fait construire un palais plus modeste, voilà. Donc montrant qu'il est le lieutenant du roi, il est au pied du roi, quoi, du vrai roi. Mais le règne de Salomon a aussi des ombres. Une fiscalité excessive émousse la loyauté des provinces qui cherchent à s'émanciper, profitant du reste d'échecs militaires hébreux que l'historiographie étrangère nous permet de connaître. Ça, évidemment, l'historiographie biblique s'est pas trop étendue sur ces défaites, mais il y en a eu. Donc, le royaume est fragilisé. Et en même temps que s'introduit vers la fin un syncrétisme religieux dû aux alliances que le roi avait certainement été obligé de conclure pour défendre son royaume branlant. Vous voyez, comment on fait pour. Quand on fait une alliance, eh ben, on jure par les dieux du voisin. Donc si on est censé ne reconnaître qu'un seul dieu pour des motifs diplomatiques, finalement, on va reconnaître aussi les dieux des autres. Et en fait, un des éléments de la diplomatie de l'époque, c'est aussi d'épouser la fille du roi local, une des filles du roi local. Donc on rajoute aux femmes qu'on a déjà. Et alors ces braves filles, elles viennent évidemment leurs propres idoles, avec leurs propres dieux. Et à ce moment-là, il y a une véritable sorte de panthéon de divinités étrangères qui s'installent à Jérusalem avec leur culte, leurs desservants, etc. En particulier, il y a le culte des pieux. Enfin, il y a tout un culte phallique hein, dans ces territoires de Canaan, ce qu'on appelle sur les hauts lieux. Ben, on dispose des stèles ou des pieux, ou on adore des arbres ou des choses de ce genre, enfin, tout ce qui peut être vertical, quoi. Donc, qui sont des divinités, comment dire, de fécondité. À l'époque où finalement la fécondité est capitale, hein, parce que non seulement celle de la terre, mais aussi, et oui, les bras pour cultiver la terre, parce que avec la mortalité infantile gigantesque, qui parfois emporte les femmes aussi. C'est pour ça qu'il en faut beaucoup. Eh bien, ça réduit les populations souvent à pas grand-chose. Donc, la révolte gronde. Et ça sera le complot de Jéroboam. Donc, paragraphe 2, le royaume divisé. Alors, grand A, Israël et Juda. Alors, le premier livre des rois, chapitre 12, et le deuxième livre des chroniques, au chapitre 10, nous relatent ce schisme. Alors, schisme parce que, on peut dire schisma au sens, disons, étymologique du terme, une séparation, hein. Mais on peut le prendre aussi au sens figuré qu'il a aujourd'hui chez nous, c'est-à-dire ça va être aussi un schisme religieux. Alors, il se produit en 933, 2 ans après la disparition de Salomon. Roboam, qui avait été désigné par Salomon comme roi de Juda, se rend à Sichem pour recevoir comment dire, l'investiture des tribus du Nord. Donc vous voyez que malgré tous les efforts sur un cinquantenaire à peu près, peut-être plus, d'unité du royaume, ça restait encore très précaire. Hein. Malgré la mise en place d'une administration de hauts fonctionnaires, les tribus restaient quand même très vivaces. Et alors, ces tribus du Nord présentent des doléances auquel il va répondre par des menaces, entouré d'une petite coterie de jeunes princes qui partagent son arrogance. Et désavoué, il va chercher à négocier pour essayer de récupérer l'investiture des tribus du Nord, mais d'une manière tellement maladroite que les tribus du Nord appellent Jéroboam, un autre, a régné sur elle, un autre fils de David. Et donc la rupture est consommée entre Roboam et Jéroboam.
David ou Salomon?
Salomon, oui. Oui. Alors, la facilité avec laquelle se produit cette scission en l'espace de 2 ans après la mort de Salomon tient à plusieurs causes, mettons un faisceau de causes. D'abord, la fragilité du royaume unitaire qui n'a jamais été vraiment unifié, à vrai dire, qui ne tenait que grâce à la forte personnalité de David, puis de Salomon. Il y avait eu d'ailleurs déjà des antécédents au schisme, la révolte d'Absalom qui justement était basée sur le royaume du Sud. Et puis, il semble que la sécession du royaume du Nord et était encouragé par le poids plus lourd de la fiscalité et des travaux forcés, enfin des corvées, qui portaient sur les tribus du Nord, sachant que la dynastie venait du Sud. Donc elle avait tendance à épargner les tribus d'origine et à faire peser le poids sur les tribus du Nord. Et enfin, il semblerait qu'il y avait aussi une disparité politique dans la mesure où la monarchie héréditaire posait pas trop de problèmes dans le royaume du Sud, alors que au Nord, on préférait plutôt une monarchie élective. Au Sud, il y a deux tribus, donc Benjamin c'est petit, Juda c'est principal, et donc finalement c'est le chef de Juda qui règne, voilà, de père en fils. Au Nord, il y a quand même 10 tribus qui sont toutes un peu différentes, et on a entendu qu'ils sont plutôt des marins d'ailleurs. Et donc il y avait certainement des. Voilà, il n'y a aucune des tribus qui avait une hégémonie sur les autres. Et donc, ils étaient plus dans une logique de conseil, en quelque sorte, et de monarchie élective. Finalement, dont le modèle se trouvait un peu dans le système des juges avant, où on agréait finalement quelqu'un qui s'était distingué, militairement la plupart du temps, pour guider les tribus. Alors, les historiographes de la Bible, eux, vont un peu passer sous silence ces causes-là, mais ils vont surtout insister sur le fait que l'unité était un don de Dieu et que l'infidélité, notamment religieuse, des deux premiers dynastes a été la cause du retrait de ce don, donc de la ruine du royaume unitaire. Pourquoi? Parce que ils ont. Alors on dit c'est à cause des femmes. Parce qu'ils ont accueilli comme épouse donc des princesses étrangères qui amenaient leur religion et eux se sont laissés séduire par ces religions. Et plus il y avait de Dieu, finalement, mieux c'était. Et donc, voilà, l'infidélité religieuse des rois entraîne la chute du royaume. Alors, on va assister à une rivalité pluriséculaire. Donc, l'une des premières tâches de Jéroboam, ça va être. Donc, le temple est au sud, hein. Donc. Qu'est-ce que va faire Jéroboam? Eh bien, il va recycler ce qu'il peut trouver comme temple acceptable pour être le lieu de coaliser, pour coaguler religieusement son royaume. Et justement, pour détourner ses sujets donc de Jérusalem, il va relever les traditions du temple de Bethel. Qui devient le centre de culte national du royaume du Nord, c'est-à-dire des 10 tribus du Nord. Et donc, au schisme politique s'ajoute un schisme religieux, c'est-à-dire Jérusalem au sud, Bethel au nord, et qui sera un petit peu à l'origine de l'inimitié entre les Judéens et les Samaritains. On trouve cette. Inimitié religieuse profondément enracinée dans l'histoire d'Israël. Alors, sur le plan politique, le royaume du Nord, donc d'Israël, en ce sens-là, diminué, quoique plus étendu et plus riche, demeurera fragile à cause justement de son instabilité dynastique qui tient à cette tradition des tribus qui gardent un peu derrière elles, dans leur tête, l'esprit des juges. Il va connaître 19 rois en 2 siècles. Vous voyez, c'est quand même beaucoup, hein. La seule grande dynastie du Nord, au 9e siècle, cherchera à étendre son pouvoir, justement, en malmenant le royaume de Juda, mais sans y parvenir. Et en fortifiant sa puissance économique. C'est alors qu'est fondée, donc par le roi Omri, la cité de Samarie, qui devient la capitale donc d'un État que menace toujours les Araméens du royaume de Damas, hein, un petit peu plus au nord-est, auquel de temps en temps s'allie évidemment le royaume de Juda.
C'est contre-lien.
Voilà, comme le royaume du nord est un peu pesant, eh bien on fait une alliance de revers avec les Damascènes pour desserrer la pression de... C'est très classique en géopolitique, ça. Alors, le petit royaume du sud, lui, il est menacé en même temps de l'ouest par les cités philistines, au nord par le royaume d'Israël, au sud par l'Égypte, et à l'est par les royaumes bédouins de Moab, les Amorites et d'Homme, enfin tous ces gens-là.
C'est la Jordanie actuelle.
Oui, la Jordanie actuelle. Donc, voyez, heureusement qu'il y a son Python à Jérusalem. Hein, pour... Alors, sur le plan religieux, Judas le cède de peu à l'impiété d'Israël. Alors, on présente les rois d'Israël tous comme des impies. Et alors, on les présente d'autant plus comme impies qu'en fait... ceux qui écrivent l'histoire sont à Jérusalem, hein. Donc ils présentent ceux du nord comme impies puisqu'ils ont renoncé au temple de Jérusalem et ils sont au temple de Bethel, donc ils ont déjà tous les péchés.
C'est où exactement? C'est...
Bethel, c'est en Samarie. Alors je ne sais pas s'il y a une ville qui a été reconstruite dessus, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, donc les rois du Nord vont être mal vus, mais l'historiographie biblique ne pourra pas non plus dire que ceux du Sud étaient bien.
Oui. Hein.
Alors pourtant, il y a eu des grands rois au Nord. Hein. Il y a Omri, notamment, celui qui fait bâtir Samarie, qui est enfin un royaume assez puissant. Akab, le fameux Akab là, qui épouse Jézabel et qui va susciter la résistance farouche de Élie, dont on ne sait pas d'où il vient, sinon qu'il était Tishbite. Le cycle d'Élie, premier des rois, 17-22, et qui va donc justement, là on est vraiment confronté à quelqu'un qui va apporter sa religion, hein, puisque... Jézabel fait venir 450 prophètes de Baal, et qui, voilà, c'est pas rien. Hein. Et alors, vous avez l'ordalie célèbre du Mont Carmel, avec le... Alors là, vous avez quand même des trucs, c'est vraiment trop drôle. Je pense qu'Onfray pourrait avoir signé le texte, hein, quand il dit, alors les prophètes, vous savez, on dépèce le taureau, et puis il leur dit, le bûcher sur lequel le feu se mettra et qui consumera l'offrande, eh bien, ça sera vraiment le vrai Dieu qui l'aura décidé. Et alors donc, les prophètes commencent à faire toutes leurs formulations magiques, leurs incantations, etc. Rien ne se passe. Et alors, Élie leur dit, mais criez donc plus fort, c'est un dieu, il est en train de faire une sieste, ou alors il est parti en voyage. Et alors il crie plus fort, il se lacère avec des stylets, etc., etc., et rien ne se passe. Et alors c'est là qu'il va les défier, il va dire, mettez de l'eau pour que le bois soit bien mouillé, etc. Et puis alors là, il va... Puis alors, il y a le petit détail aussi qui tue, si j'ose dire, à la fin. Parce qu'au moment où tous ceux d'Israël qui n'avaient pas ployé le genou devant les dieux païens se réjouissent, ils sont contents, et finalement à bon prix quand même, hein, et les autres se rallient au dieu d'Élie. Élie, lui, remarque quand même que les 450 prophètes de Baal, un peu piteux, sont toujours là, alors donc il les fait égorger de sa main, il les égorge de sa main dans le ruisseau. Autre mœurs, hein, autre temps, autre mœurs. Oui, 450, ça paraît beaucoup. Hein. À mon avis, la journée n'y suffisait pas. Hein, mais bon. Enfin, alors, Élisée, qui est le successeur d'Élie dans cette affaire, Vous vous souvenez, hein, à l'époque de Saül, on avait des bandes de prophètes. Et il semblerait que Élie et Élisée soient un petit peu, quelques siècles après, les héritiers de ces bandes de prophètes, hein, pas rattachés à un sanctuaire particulièrement, mais qui étaient des gens un peu errants. Alors, il y a toute une tradition de... Par exemple, chez les Carmes, on prétend que Jésus a un bon catéchisme parce que la Sainte Vierge avait envoyé, l'avait mis à l'école religieuse chez les descendants de Élie et Élisée. Donc chez les premiers Carmes, si on peut dire, les Carmes de l'Ancien Testament. Bon, voilà. Et le royaume de Juda, donc c'est un peu la même chose. Ils sont aussi tentés de s'en remettre à des alliances militaires. Et souvent matrimonial, parce que ce qui dit militaire dit on prend une épouse avec le nouvel allié. Donc ils sont des prétextes à l'instauration de nouveaux cultes officiels, plutôt que faire confiance à Dieu pour délivrer le royaume des menaces. Et l'impiété atteint son comble au sud, lorsque la fille d'Akab, Athalie, exerce un pouvoir absolu avec son copain Mink. De toute manière, Athalie et Mink, je ne sais pas s'ils proviennent du royaume du Nord ou du royaume du Sud. Non, c'est le royaume de l'Ouest. Ils ne sont certainement pas dans l'Est parisien. Et donc, ce n'est qu'avec la complicité d'un complot de grands officiers du palais qu'une révolution de palais, justement, va rétablir sur le trône un descendant de David. Alors, vous savez aussi, d'ailleurs, que l'épouse de Akab, elle finira mal, hein, les prédictions de Élie vont se réaliser. Et elle sera jetée Athalie aussi, mais Jézabel, d'une hauteur. Oui, et elle se fera dévorer par les chiens, etc. Et d'ailleurs, dans les séminaires, la tradition, c'est que le pâté de viande, de reste qui devait avoir lieu, qui était servi, s'appelait de la Jézabel. On a peut-être la Jézabel, c'était une sorte de pâté de viande, c'est une sorte de hachis parmentier. Alors, le royaume du Nord va connaître un dernier lustre sous le règne fastueux de Jéroboam II, 781-743, qui verra l'opposition vigoureuse du prophète Amos, dénonçant la bande des vautrés couchés sur leur lit d'ivoire qui braillent au son de la harpe, mais se désintéressent du sort de l'État, s'enrichissent dans l'injustice, achetant le pauvre pour une paire de sandales, disent-ils. Donc Amos va se... Donc, vous voyez, un royaume qui devait être assez riche pour avoir une hyperclasse de privilégiés qui vit aux dépens du peuple et vautré dans la paresse et les plaisirs. Alors ça ne durera pas, et on va faire l'expérience. Alors ça va être la fin. Oh, j'ai terminé comme ça. Oui, donc la fin. Bon, la domination assyrienne et la fin d'Israël. On va voir ça encore.